Scribens O, Scribens A.
Cette émission se propose d'explorer les mystères de la création littéraire et poétique. C'est à Barjols, dans un petit coin du Var, que j'ai eu la chance d'interviewer Camille Case, au lendemain d'un atelier d'écriture qu'elle menait. Dans son salon marocain, à la lumière d'un soleil naissant, la poétesse, slameuse, autrice, s'est livrée à mes oreilles tout ouïes. Bonjour Camille, Camille Case même, on a eu l'occasion de se rencontrer à Aubagne lors d'une scène slam. Et voilà, j'étais découverte via le slam, mais je crois que ce n'est pas ta spécialité uniquement. Tu animes également des ateliers d'écriture. Tu pratiques la poésie, tu as écrit, je crois, même un roman. Donc l'écriture, c'est la première corde à ton arc ou je me trompe?
Alors, dans l'ordre, Camille Case, c'est deux mots qu'il faut dire sans trop les coller. Il ne faut pas dire Camille Case parce que c'est pas doux. Voilà. Donc, Camille Case, c'est bien. Spécialité, je ne sais pas si c'est une spécialité. Les ateliers d'écriture, oui, c'est devenu quelque chose de spécial. Concernant le slam, c'est un peu le démarrage de mon aventure avec l'écriture tournée vers un public de gens, de poètes, parce que c'est le slam, c'est un mouvement, c'est une famille où on s'écoute avec une attention quasi religieuse, je dirais pas religieuse, mais reliante. C'est vraiment des moments de communion et d'actualité parce que c'est des fenêtres que chaque poète ouvre sur son monde et ça nous permet d'être ensemble. C'est très fort le slam. Donc c'est parti de là, mon aventure, il y a une quinzaine d'années. Et depuis, j'ai inventé un outil un peu spécifique pour les ateliers d'écriture. Voilà, avec des rêves, des grands rêves dans la tête, un outil qui me permet de faire des choses très très étonnantes. Et c'est pas un roman que j'ai écrit deux ouvrages, un recueil de poésie avec 40 textes de scène dedans, des textes que j'ai dit soit pour le slam, soit pour d'autres projets, voilà, des textes que je porte par cœur en tout cas. Et l'autre ouvrage, c'est La révélation de Lilith, et c'est en fait un essai poétique, théâtral, post-féministe.
Alors, post-féministe, ça m'interroge. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport au féminisme que l'on connaît?
Le féminisme a déjà un défaut majeur, c'est d'être un mot en isme. Et quand on regarde les mots, ce qu'ils deviennent avec un isme, en fait, ils se figent. Ça devient institutionnel, ça devient quelque chose dans lequel le sens se retrouve enfermé et à tourner en rond, quitte au risque de moisir. C'est-à-dire que le commun n'est pas le communisme, la liberté n'est pas ce que fait de nous le libéralisme, l'humanité n'est pas l'humanisme qui pense depuis sa tour d'ivoire. Enfin voilà, le isme, c'est un symptôme sur le mot qui nous dit l'arrêt de son sens, momifié. Donc le féminisme, c'est un peu cette espèce de tour dans lequel les femmes tournent, une impasse en fait, pour moi une impasse où la féminité, on ne sait pas trop ce que c'est finalement, parce qu'on est trop occupé à lutter contre un monde qui s'est pensé sans l'énergie du féminin, donc on la délaisse pour prendre les outils du masculin pour aller leur taper sur la gueule ou faire la course à l'ovule avec eux. Donc c'est-à-dire c'est des énergies qui sont plutôt masculines et du coup les femmes souffrent énormément et ça devient la guerre des sexes sur un terrain qui est pas très intéressant. Donc le post-féminisme, ça serait la sortie de cette impasse.
J'aurais souhaité savoir quel rapport tu entretenais avec l'écriture, s'il y a des moments où tu écris plus particulièrement, si tu traces ta route en fonction d'un objectif bien précis, ou si
voilà, plusieurs idées affluent et que tu en choisis une dont tu vas tirer le fil. Quel est ton rapport à l'écriture de façon temporelle et en matière de process?
Oh là là, l'écriture est déjà présente dans ma vie depuis toujours. Moi, je voulais être guitariste et karatéka quand j'avais 5 ans, mais j'ai pas été suivie sur ces désirs parce que un milieu familial où c'était pas du tout la culture d'écouter les enfants comme ça. Voilà, donc dès que j'ai pu, à 13 ans, j'ai pris un stylo et je crois que je l'ai jamais lâché depuis. Donc voilà, le processus maintenant, c'est lever généralement très tôt le matin. Ça peut aller de 3h30 à 5h30 du matin. C'est l'heure à laquelle je me lève. Plus tard, ça ressemble à une grasse mat pour moi et je sais pas faire ça. Donc j'écris. Selon ce qui m'habite, ce qui m'occupe, ce que je dois faire de mes journées. Donc c'est très arborescent en fait parce qu'on... On peut pas, en tout cas, je mène pas une vie qui me permet de me consacrer uniquement à l'écriture créative, même si ça occupe quand même 80% de mon temps, je dois l'avouer. Je pense que j'écris 6 heures par jour, minimum.
En t'attelant à l'écriture poétique, mais également...
Alors ça peut aller, des fois, je compte dans ces heures des SMS que je peux envoyer, des textes que j'écris sur mon profil Facebook qui sont... suivi par quelques personnes qui aiment depuis des années ce que je propose, parce que j'annonce des choses que je fais, comme partir par exemple en camion en plein Covid pour aller dire des ateliers, enfin pour aller animer des prises de sens ou dire des poèmes aux gens au téléphone. Bien souvent aussi on m'envoie dire des poèmes à d'autres personnes, ça fait du bien aux gens, donc je le fais volontiers. Donc tout ça, je l'annonce, je le fais, et les gens aiment bien en fait la façon dont je pratique la poésie, c'est-à-dire une parole aussi qui me permet d'accrocher comme des mousquetons devant moi et de rejoindre en intention. Je pense que c'est aussi ça la poésie, en tout cas pour ce qui est de l'état d'esprit. Je sais pas si ça répond à ta question de process, parce que ce mot-là fait pas trop partie de mon vocabulaire, en tout cas je le conscientise pas trop. Voilà.
Et tu peux nous donner le nom de ta page Facebook?
Ah bah c'est Camille Caz. L'avatar, c'est le même que sur mon recueil de poésie. C'est le penseur de Rodin qui se fait traverser par un avion kamikaze pour le coup et qui lui pète, qui lui fait une ouverture au niveau du cœur en fait. Et sous le petit avion, il y a une bombe et il y a écrit Slam dessus.
Donc Camille, je précise, Case, C-A-S-E. On est d'accord?
Bah, comme la case qui vous manque, en fait.
Alors, il y a une question que je souhaitais te poser en matière d'écriture, d'une part, et de déclamation, d'autre part, puisque le slam, c'est ça. Quand tu écris un texte à slammer, tu l'écris pour le slammer ou tu écris et puis peut-être que tu le slameras ou non?
En fait, il y a des textes qui sortent spontanément, versifiés dans le sens où il y a une musique qui va avec le slam, avec la façon dont je peux slammer. Et du coup, du texte vient s'inscrire là-dedans. Et quand c'est vraiment très très fluide, ça arrive que je l'apprenne par cœur et qu'il rentre dans mon répertoire. Même si ces derniers temps, je suis encore sur un répertoire d'une quarantaine de textes que tout le monde n'a pas entendu et qui fait encore beaucoup de bien ou qui interpelle beaucoup. Donc, j'écris beaucoup, mais voilà. J'ai pas encore appris les textes forcément, j'en ai peut-être 5 à apprendre par cœur, qui seraient contents de rentrer dans un répertoire, dans le répertoire, au bout dans cette deuxième période en fait de répertoire.
Et puisque tu as publié notamment un recueil de poèmes, est-ce que tu penses que ce recueil ou ces poèmes peuvent être déclamés par autrui? Et si c'est par autrui et que tu es amené à les entendre, si ça a déjà été le cas, tu as découvert autre chose, d'autres sens à ton écriture?
Ah, c'est curieux que tu me dises ça parce que ça touche une limite chez moi. J'ai fait des expériences désastreuses quand j'ai commencé le slam avec un slameur qui avait ouvert mon petit porte-vue, qui avait pris un texte au hasard et qui l'avait beuglé sur scène. Et ça a été d'une violence folle pour moi. En fait, j'aime pas trop l'échangisme textuel. Je peux porter dans ma bouche d'autres textes, mais l'inverse est moins vrai. Parce qu'en fait, mes textes ont une musique. Tous les textes, en fait, tous les slameurs, quand ils parlent, ont une musique. Et pour l'instant, je trouve que je préfère la façon dont je porte mes textes. Ou alors les gens se mettent à imiter ma musique, mais bah, ça me fait drôle d'entendre ma musique dans leur bouche, ça m'amuse, mais. Non, j'ai pas trouvé quelqu'un qui le portait avec une autre musique que la mienne qui m'intéresse. Pour l'instant, j'ai pas fait cette expérience en tout cas.
Est-ce qu'on peut dire que lorsque tu slams, tu incarnes un personnage où c'est vraiment toi qui parle? Et si c'est un personnage, comment tu pourrais le décrire? Est-ce que Camille Caz qui slame, c'est quelqu'un d'autre que toi-même?
C'est moi dans mon alignement mais moi, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, tout ce que les gens ont déposé en moi, ou ce que j'ai pris d'eux, ou ce qui m'a s'imprimé en moi. Ce qui fait que bah moi qui parle, ça peut être une pute rencontrée à Marseille, ça peut être un enfant qui n'est pas né, qui regarde ses parents faire l'amour vu du ciel, ça peut être moi qui fais un genre de sketch, ou plutôt un genre de stand-up poétique, ça peut être une histoire que je raconte depuis un point de vue un peu omnipotent, hors du temps, voilà, des expériences comme ça. La poésie permet de se mettre à plein d'endroits différents. Voilà, donc moi je me prête à cette aptitude très empathique en fait de pouvoir parler à la place de quelqu'un d'autre, en fait.
Moi, j'ai pu noter quand je t'ai vu, mais c'était juste une petite parcelle de ce que tu peux être amené à faire, une grande féminité. Est-ce que cette fibre féminine est présente dans tous ces personnages, entre guillemets, pour lesquels, ces personnes pour lesquelles tu as de l'empathie? Est-ce qu'il y a cette fibre féminine qui ressort systématiquement?
Bah écoute, je dois avoir 6 ou 7 textes où je fais parler des femmes différentes. J'en ai fait un petit spectacle qui s'appelle Quart d'heure féminin avec risque de débordement. J'ai eu l'occasion de le jouer une seule fois. Si tu tapes quart d'heure féminin Camille Caz sur YouTube, tu tombes dessus. C'est un extrait de ce spectacle. À cette occasion, j'ai rencontré Sandrine, pas Sandrine, Juliette Binoche, qui était dans les coulisses et qui a vu le spectacle, avec qui on a échangé en sortant. Il y avait Michel Oslo et Nicole Ferroni dans la salle que j'avais invitée, et ils étaient venus. J'aimerais bien rejouer ce spectacle dans des endroits où on questionne ce que c'est que le féminin, où on a envie de le vivre sincèrement, et même animer des ateliers d'écriture dans ce cadre aussi. Voilà, j'aime pas que dire, j'ai envie d'être très, très active aussi. Mais je sors un peu de ce que tu m'as demandé.
La parole est libre ici.
Oui. Mais alors, pour revenir à la féminité, je pense que c'est ça, peut-être le côté, le tempérament du féminin, à l'image de la terre, c'est très foisonnant en fait. Je suis quelqu'un de foisonnant. Voilà. Donc, je peux suivre le fil d'une pensée dans le temps, un peu loin, comme ça, si on ne m'arrête pas, je vais parler de choses qui vont se passer dans 10 ans, et je vibre d'impatience joyeuse et enfantine. Ça, c'est très féminin aussi, je crois.
La joie et l'enfant, on peut dire femme-enfant.
Non, pas femme-enfant, plutôt poupée russe. C'est-à-dire que je suis faite de strates de tous les âges que j'ai traversés. J'ai un texte d'ailleurs sur une vieille dame comme ça, que j'ai appelée poupée russe. Et en fait, c'est juste que j'ai le kirikou, tu sais, la petite poupée russe insécable qui est très, très actif. Et je peux me vivre aux différents âges de ma vie. J'ai eu 10 ans, j'ai eu 25 ans, j'ai eu Bah, j'ai eu 30 ans, 40 ans, 45 et 50 ans l'année dernière.
Je me demandais si tu avais des références, des mentors. J'ai pu lire que tu avais fait un mémoire sur À la recherche du temps perdu. Est-ce que ça a été une forme de pierre angulaire à ton parcours de créatrice?
Bah, moi, je suis issue d'un milieu populaire, donc il n'y avait pas de livres à la maison, à peine un dictionnaire et puis surtout la télé allumée. Ça a été ça pendant longtemps. Donc à 10 ans, je savais toujours pas lire couramment. Donc oui, la rencontre avec Proust, ça a été une révélation pour moi. Et c'est vraiment un auteur à qui j'ai tenu la main ou en tout cas que j'ai pas lâché pendant plusieurs années parce qu'il m'a tout appris, la sociologie, le regard sur l'art, l'impressionnisme en fait, l'amitié, le désir, la jalousie, le fait de passer à côté de l'amour toute sa vie, c'est ça le temps perdu pour moi. Voilà. Et après, il y a Brassens que je connais par cœur et qui me tourne dans le sang, mais clairement quoi, c'est-à-dire son anarchisme reclusien, son amour des autres, l'amitié qu'il a pour les gens et ce que ça générait. Pour moi, c'est un poète impeccable. Il est beau dedans, il est beau dehors et c'est très très inspirant. J'ai un autre père spirituel, c'est Michel Hoslot, le réalisateur de Kirikou. Toute son œuvre m'a toujours accompagnée depuis 20 ans. J'ai vécu un drame dans ma vie et depuis Kirikou et tous les contes d'Oslo m'ont accompagné comme du baume. Et il se trouve que j'ai rencontré Michel Oslo il y a une douzaine d'années. Et qu'on est. C'est une très très belle et très longue histoire. Ça serait presque un film, mais on est devenus des gens proches, voire intimes. Et j'en ai fait mon père adopté. Donc c'est pas vraiment un mentor. Parce que là, on en est à un stade où c'est plutôt quelqu'un qui aurait pu avoir un rôle de père. Je me sens tutorée par son œuvre. J'aime les valeurs que portent ces princes, ces princesses, ces Azur, ces Asmar, ces sorcières et ces maîtresses des monstres. Et puis voilà, je suis un peu, j'ai l'âme un peu marquée comme si j'avais eu un père au départ. Voilà.
Tu évoquais Nougaro et une chanson bien particulière.
Alors, c'est pas une chanson, c'est un genre de slam en fait. Un slam audacieux de 15 minutes où il te raconte qu'au pied de son lit, un ange est apparu une nuit. Il s'est matérialisé devant lui, tu vois, en tourbillonnant petite étincelle, voilà. Et il détache une plume de son épaule et lui donne, il lui dit, tiens. C'est une plume d'ange, qu'un seul être te croit et ce monde est sauvé. Voilà, ça commence comme ça dure 15 minutes et je te spoilie pas la fin. Tu trouves ça sur YouTube aussi en tapant Nougaro, plume d'ange, la plume d'ange. Faut le voir en scène, hein, pas juste parce que faut, c'est visuel aussi, il est extraordinaire, Nougaro.
Qui dit plume d'ange sans spoilier ton spectacle? Mais je crois qu'il s'agit d'anges et d'apparitions d'anges à une des protagonistes de ce spectacle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Ouais, pour donner un tout petit peu le contexte, ce travail est issu de mon livre La Révélation de Lilith. Il y a quatre parties dedans, un essai, un poème qui s'appelle La prière d'Adam, qu'on voit aussi sur YouTube en tapant La prière d'Adam, Lilith du jardin, en un seul mot. C'est la première partie du spectacle, ça dure 8 minutes, c'est juste audio. Ensuite, il y a une pièce de théâtre, et là, Lilith revient dans la conscience collective appelée par la prière d'Adam, interviewée par Eva Grenelle. Eva Grenelle, journaliste féministe. Elle se retrouve contrainte d'accueillir dans son émission radiophonique en direct avec un public, ce qui justifie la pièce de théâtre, ce personnage biblique. Donc c'est une pièce surréaliste. Les deux femmes vont se rencontrer enfin et régler leur compte. Voilà, ça va être. Voilà, je dis rien.
À découvrir donc. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose et puis ensuite nous lire quelques textes qui te tiennent à cœur, pardon?
Écoute, je crois que dans cette interview, j'ai donné j'ai renvoyé les gens à trois contacts. Quart d'heure féminin sur YouTube, Camille Caz en deux mots. La prière d'Adam, Lilith du jardin. Voilà, allez découvrir ça. Et puis si je devais vous dire un poème, là tout de suite, je vais vous en dire un très très court. Faut que je me redresse parce que là, je suis un peu outrée. C'est ça d'être dans un salon marocain. Dans ce moment où ton esprit ouvrira bien en grand ses portes, sous les contractions de la vie qui poussera pour que t'en sortes, sans rien qu'avec toi tu emportes, à part peut-être 21 grammes, ton seul bagage en quelque sorte, si tu n'as pas vendu ton âme, tu seras sans idée à combattre, sans croyance à quoi t'accrocher, tes châteaux abattront leurs cartes, et impossible d'en penser quoi que ce soit de consistant. L'esprit ouvert aux quatre vents, tout nous invite à y aller tant que nous sommes encore vivants.
Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul.
Petit clin d'œil à Kirikou. Et petite question, les mots appellent-ils la poétesse pour qu'elle leur donne vie? Ou naissent-ils comme bon leur semble sous la plume de leur autrice? Qui sait?
Je serai la petite fille de Brassens. Je ne peux pas être sa maîtresse. Sûr qu'on aurait chanté mon prince un truc du genre Lemon and Cest. Je veux être Lison dans ses chansons. On se serait aimé au passage, à cette époque où Cupidon attendait en flèche passage. Cet homme-là n'aurait pas eu peur, et les yeux tendres et les mains nues, il m'aurait couché sur son cœur sans craindre pour ses attributs. L'amour est libre, il le savait. Par principe, il ouvrait sa porte, et si parfois il regrettait de voir à quel point le diable emporte rose, bouteille et poignée de main, au moins lui restait le poème. Car pourquoi remettre à demain quand passe entre nous un « je t'aime » Prévert, en amant averti, gommait les barreaux de la cage. Et les oiseaux, tout étourdis, laissaient quelques plumes en partage. Une ou deux plumes contre un parfum, un truc qui vous habille l'âme. À ce deal, on ne perd rien. Regardez-vous avec vos slams, qui prétend aimer sans ouvrir, sans jouer dans la cour des vivants. Eh, pour le repos, attends de mourir. Et là, il n'y aura plus de tourments. Je serai la nièce de tonton Georges, ne le répétez à personne. Je ne mets pas de soutien-gorge, je ne supporte pas qu'on emprisonne ce qui me bat dans la poitrine, et ce n'est pas tant pour mes seins. Non. Je ne cherche pas à mettre en vitrine ce qui te tiendrait dans la main. Oh oui, mon cœur est à papa, ami et maître spirituel. Non, son gorille ne m'impressionne pas, et le juger serait criminel. J'ai les mêmes dieux que mon aîné, Saturne, Aphrodite, le grand plan, et le même sens du sacré dont la métaphore est l'enfant. La poésie et le divin. Sa coquine a la même adresse. Hermès passera chez toi demain, veut dire je t'envoie un SMS. Même tendresse, même passion, même rejet épidermique. Pour ce qui se fige en institution et reste bien gardé par des flics. Je ne sacrifie rien sur l'autel du mariage ou bien d'une église. C'est à mon cœur que je suis fidèle. Et si ensemble on s'éternise, j'ai l'honneur de ne pas te demander avenants ou contrats. J'aime autant qu'on ne soit que deux à inventer nos propres lois. Je ne veux pas d'amour sans humour, ni sans l'approbation d'Eros. Quand c'est léger, c'est que c'est du lourd et qu'il y a du monde intramuros. Je serai la petite fille de Brassens, trop tard pour être sa maîtresse. Comme je t'aurais chanté mon prince si j'avais été ta pécheresse. Si j'avais été ta pécheresse.
C'est plus fort que moi. Écoutons ne serait-ce que les premiers mots de Nougaro et sa plume d'ange. À regarder ensuite sans modération sur YouTube.
Vous voyez cette plume ? Eh bien, c'est une plume d'ange. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de me croire. Je ne vous le demande plus. Pourtant, écoutez, encore une fois, une dernière fois, mon histoire.
Comme une ouverture à la prière d'Adam. Première partie du triptyque La révélation de Lilith, dont Kamikaze viendra nous parler prochainement.
Ne dites pas que c'est sa faute. Si vous voulez, je vous explique. Si dans ma tête ça se complique, c'est qu'on m'a enlevé une côte. Ève a été faite docile. Mais ce n'est pas vraiment la femme. Une autre, pétrie du même argile que moi, a bouleversé mon âme. Je dois vous parler de Lilith. Faites aussi libre que je le suis. Sa joie se répand aussi vite pousse des fleurs en paradis. Non, je n'avais pas de besoin avec elle. Je vivais de peu. L'air du temps nous rendait heureux et je savais soigner le jardin. Mais la beauté de son sourire m'est un jour montée à la tête. Quand je le vois, ça me rend bête. Je sens que durcit mon désir. Lilith me montait dessus avec de grands éclats de rire. J'ai eu peur parfois de mourir tellement mon cœur a battu. Sa source coule dans mon sang. Son chant occupe toute mon âme, ça m'alarme, mais ça me rend fort. Tout est toujours en mouvement. Fait des mots à un usage que je parviens mal à comprendre. Elle parle. Et moi, je la regarde. J'ai encore envie de la prendre. Peu importe ce qu'elle veut dire, Quand je la serre dans mes bras, elle n'en finit pas de fleurir. Elle est la vie, d'accord, c'est ça. Elle porte le fruit de ma semence. Et son corps me fait des enfants. Ce qu'elle dit n'a pas d'importance. Son sexe devient mon tourment. Croyez-moi, j'ai très bien compris. C'est pas les dieux qui font tout ça. Lorsque son ventre s'arrondit, c'est ma jouissance qui fait loi. Alors, j'ai abattu des arbres et j'ai inventé les clôtures. Pour la garder entre mes murs, j'ai distribué des coups de sabre. Lilith pose beaucoup de questions, mais y répondre, c'est impossible. Elle parle, mais de choses invisibles. Et chaque fois, j'ai l'impression que ses idées intarissables exigent de moi autre chose. Elle est peut-être là la cause de ma démesure insatiable. Pour qu'elle me trouve intéressant, j'ai conquis d'autres territoires, et pour qu'elle se fasse un devoir de ne pas avoir d'autres amants, j'ai tout fait pour l'impressionner. Multiplier les inventions, je ne sais plus comment briller pour qu'elle me garde son attention, mais sa grâce remplit l'atmosphère et son amour s'étend partout. Lilith, ça m'a rendu fou, je déclare la guerre à mes frères, j'en reviens cassé de souffrance. Lilith ne veut pas compatir. Quand elle me refuse sa danse, j'aurai envie de tout détruire. Je vais mourir si elle me juge. Je suis déjà aveugle et sourd. Après moi, mais que vienne le déluge si elle me refuse son amour. On a parlé de toi, Lilith. On est tombé d'accord entre hommes. La mesure de la réussite, c'est de te contenir. En somme, ce monde, moi, je l'ai fait pour elle et j'ai cru devoir le défendre. Mais je jure devant l'Éternel que je vais le réduire en cendres. Pourquoi Lilith a disparu ? Mais parce que Dieu me l'a reprise. C'est le diable qui m'a répondu. Homme, tu veux donc être servi? Je prends un peu de ta matière. Je vais te la faire, ta poupée, une qui ne va pas te contrarier. Si tu veux inventer l'enfer, Ève, enferme-la dans ton désir, cache-la au regard de tes frères, mieux, expose-la pour les faire languir et leur faire sentir leur misère. Puisque tu aimes le conflit, comme tu as besoin de soutien, voilà, comme ça, tu es servi. Fais signe si tu as d'autres besoins. Pour Ève, je n'éprouve rien. Je sens un vide à mon côté. Ève ne peut pas la remplacer. Elle n'est pas l'âme du jardin d'un bout à l'autre de la terre. Qu'elle se voile ou qu'elle se dénude, tout vient nourrir mon inquiétude. Le massacre devient planétaire. Lilith, je touche mes limites. Je souffre à mort de ton absence. Reviens, rends-moi à la conscience. Je me tais si ton cœur récite. Ensemble, on servira la vie. Et il faudra me pardonner avant que tout ne soit détruit. Lilith, apprends-moi
à aimer.
Non seulement nous aurons le plaisir d'en savoir davantage sur cette figure de Lilith et le spectacle qui se profile, mais Kamikaze nous parlera prise de sens. Tel est le nom donné à ces ateliers d'écriture. Le soir qui a précédé l'interview, j'ai pu recueillir les impressions des participants. Le mot dont il fallait s'emparer pour en extraire collectivement les multiples sens, le mot « désir ».
J'ai eu cette sensation plusieurs fois dans la soirée, mais je n'avais pas encore songé avant lors des différentes prises de sang qu'on avait fait, tu vois. Mais je trouvais qu'il y avait un côté presque psychanalytique dans nos expressions. Dans nos expressions sur ce terme-là, du désir. Et c'était profond, quoi. C'est-à-dire qu'on a voyagé dans des profondeurs, du terme, du mot. Et voilà, je trouve ça magique, quoi. Franchement, j'ai beaucoup apprécié.
Pourquoi psychanalytique ?
Dans les digressions qu'il y a eu sur les explications. Suite aux questions, pourquoi ce mot, qu'est-ce que tu entends, j'ai trouvé qu'il y avait des profondeurs en chacun de nous qui se sommes exprimés. Il y avait des profondeurs qui me rappellent cet esprit psychanalytique, aller sortir des choses très profondes, tu vois. Voilà, un truc comme ça, aller chercher de la substance au fond de nous, quoi. Mais finalement, on se rend compte qu'on s'est complété tous presque quelque part, tu vois, dans une forme de presque d'exégèse du mot, tu vois, c'est-à-dire on l'a, ouais, je trouvais ça bien, quoi, je trouvais ça vraiment très 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 beau. Merci beaucoup, Camille.
Ce qui fait sens dans cet atelier de prise de sens, c'est l'ouverture que ça déploie par rapport au mot initial. Ce qu'on en a en conscience au début et ce qu'en ont les autres qui ouvrent notre conscience à une nouvelle conception du mot. J'ai trouvé ça super riche, en fait. Ça a ouvert une nouvelle définition, peut-être, tu vois. Une nouvelle définition. Merci, Camille.
Oui, moi, je dirais que ça donne envie d'aller plus loin. Ouais, ça donne envie d'aller plus loin. Parce qu'on sent qu'il y a une exploration. Enfin, en tout cas, moi, je ressens comme une exploration. Et voilà, cette exploration-là, c'est les premiers tiroirs. Et en fait, là, j'ai quand même envie d'aller ouvrir les autres tiroirs et qui sont autour de la créativité. Voilà. Mais merci, parce que l'élan initial a été donné. C'est ça, le désir aussi. Voilà, merci.
Effectivement, ça ouvre de nouveaux tiroirs. C'est-à-dire qu'au début, ça ressemble à une exploration partagée où on s'enrichit de l'univers des autres. Et au fil du temps, ce voyage dans l'univers des autres ouvre des portes à l'intérieur, ou d'autres portes à l'intérieur. Il y a encore d'autres portes de plus en plus profondes, de plus en plus dans le lâcher prise. Du coup, ça, on peut dire que c'est psychanalytique, c'est une manière de dire la chose, mais en tout cas, c'est extrêmement enrichissant et ça enlève complètement à la fin la frontière de qu'est-ce qui venait des autres, qu'est-ce qui vient de soi, qu'est-ce qui s'est créé à l'intérieur dans le cheminement. Donc, c'est tout à fait passionnant.
Alors pour moi, la prise de sens, c'est un espace d'expression et d'écoute. Et en fait, à un moment, cette écoute, justement, elle est enrichie par l'expérience des autres. Parce que finalement, on parle de la vie, on parle de nous à travers ces mots-là, quoi. Et cette écoute, elle permet l'expression et l'expression permet l'écoute. Et du coup, il se passe quelque chose d'harmonieux et de nourrissant. vraiment.
La première prise de sens que j'ai faite, c'était sur Troubadour. Et c'est ce premier exercice, j'avais compris l'intérêt de la prise de sens, où j'avais pas du tout la bonne définition de troubadour dans ma tête. Et d'explorer le mot dans tous les sens et tout, c'était des échanges super riches. Et puis, et voilà, c'est une habitude maintenant que je prends. J'aime bien venir faire ces prises de sens pour voir aussi où j'en suis, moi, par rapport à un mot et par rapport aux autres. C'est super intéressant.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture de nos jardins secrets. Et ça, je trouve ça super précieux quand même, quoi. On a rarement l'occasion d'aller aussi loin dans le jardin des autres, tu vois. Voilà.
Merci. Là, je me rends compte que la prise de sens, c'est une façon de convoquer entre des gens une espèce de grâce à base d'attention et de temps qu'on se donne. Et je trouve que le temps et l'attention qu'on accorde aux autres, c'est une des définitions de l'amour, quelque part. Donc ça donne de la communion, ouais. Merci à vous tous.
Et voilà, c'est la fin de ce premier volet consacré à Camille Caz, que je remercie. De même que les participants de Prise de Sens, Patrick Thubeau pour ses propositions musicales et Radio Galère.